Monsieur le Président.
On a dit dans cette émission qu'on faisait pas de langue de bois.
Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas.
J'ai laissé l'appétit de Robert Navarro pour les...
De ce point de vue-là, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français.
Et ben voilà, retour dans les studios, dans l'entre-des-belettes. Mais ici, il y a un avocat, Maître Scheuer, un journaliste, Francis Zamponi, et une juge, syndicaliste, Myriam Bouza. Et à quoi on joue? Et bien à provoscoper la justice, rien que ça. Et voyons ce que ça donne quand on se rend compte que la France vit dans le monde et que le monde s'est américanisé. On va pas la jouer zémourien et tomber dans quelques mélancolies romantiques. Cependant, il faut bien admettre que la mondialisation s'est répandue sur toutes les sphères de la puissance. Chacun le sait, l'économie financiarisée s'est globalisée depuis les années 80 du siècle dernier. La force militaire aussi, les sciences et la technologie aussi, la culture aussi. Aussi, mais qu'en est-il de la justice, ce droit par essence régalien de commander et de punir? Eh bien, aussi, comme Félicie, vous savez, celle de Fernandel. Bon, avec le plaidé coupable, est-ce qu'on n'a pas mis le doigt dans l'engrenage anglo-saxon? Et là, je me retourne vers notre magistrate, quoique syndicaliste. Est-ce que le plaidé coupable, c'était pas là une erreur fondamentale au niveau de notre bon vieux droit romain? Ces lois Perben 1, Perben 2, etc.
Pourquoi ne pas changer d'orientation dans notre façon de voir les choses et de penser? Je vous renvoie la question.
Parce que nous sommes des conservateurs. Non. Et pourquoi voulez-vous changer? Pourquoi voulez-vous vous américaniser? Ou américaniser le droit et américaniser les citoyens?
Qu'est-ce que le plaidé coupable, à votre sens, est une forme d'américanisation de la justice française?
Ah oui, ben, ce que disait le renard tout à l'heure, gueuleté en a gueuleté.
Mais donc...
Ça coûte moins cher de plaider coupable que de plaider non coupable. Si on risque entre 2 et 5 ans, on plaide coupable, on prend 2 ans. Si on plaide non coupable, on prend 5 ans.
Pourquoi ne pas... Alors, c'est la question que je vous pose. Et là c'est un petit peu ma dimension de juge de l'application des peines qui parle. Pourquoi, une fois que la faute est commise, qu'il est question de rentrer dans la phase de réparation, pourquoi le condamné n'aurait-il pas une part active à sa rédemption, je vais dire? C'est ça qui est important.
Qui pourrait participer lui-même.
C'est ça. C'est la justice participative. C'est ça qui est important.
Ah oui, c'est le côté presque confessionnal et tout. Bénissez-moi mon père parce que j'ai péché. Alors bénissez-moi votre honneur parce que j'ai péché.
Mon père, mais quand on reçoit des condamnés en aménagement de peine, on commence par leur demander, mais est-ce que vous reconnaissez ce pourquoi vous avez été condamné?
Et vous les condamnez à quoi? 3 jours de salut Marie, 5 notre père et un credo?
J'aménage les peines. J'aménage les peines pour éviter...
Ça veut dire quoi, aménager les peines, en fait? Le type qui a pris 5 ans, comment vous l'aménagez
non,
sa peine?
Non, pas 5 ans, jusqu'à 2 ans. Un condamné libre jusqu'à 2 ans. C'est quand même la loi pénitentiaire de 2009.
Mais comment vous aménagez ça? C'est-à-dire que du coup, il aura une télé en couleur
Vous savez bien qu'on peut aménager pour permettre de maintenir une insertion socio-professionnelle ou une vie familiale ou une recherche active d'emploi maintenant en PSE.
Ah bah j'irai vous trouver dès que je serai condamné alors.
Sous bracelet électronique.
Donc je dirais bon ouais j'ai un job et tout, j'ai une famille.
Mais non mais on le
tout.
Vérifie.
Ah non mais c'est vrai en plus, je compte pas, j'ai un boulot, j'ai une famille. Voilà. Donc je peux me faire condamner et puis vous allez me retransformer ça.
Oui mais ça dépend quand même de la condamnation.
Absolument, mais c'est la loi. Écoutez, la loi pénitentiaire
dit que... Moi qui me tenais à distance de Villeneuve-la-Maguelone, je peux m'y rapprocher.
La loi pénitentiaire de 2009 dit que l'emprisonnement est l'exception et l'aménagement est la règle. Tout condamné à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 2 ans ferme est convoqué devant le juge d'application des peines par le procureur.
Il faut une motivation spéciale dans le jugement.
Quand vous avez commencé en disant tout condamné, vous avez fait penser au Spoons de Fernandel.
Oui, absolument. Il faut que maintenant les juges motivent ce pourquoi ils condamnent une personne déclarée coupable à une peine d'emprisonnement ferme.
Et mais comment vous allez faire avec les peines planchers? Ça existe toujours, les peines planchers?
Mais les peines planchers existent toujours. Mmh. On attend.
Parce que là, moi, ça me semble contradictoire. Parce qu'avec ces peines planchers, vous allez avoir des condamnations qui vont être supérieures à ces 2 ans.
Ah non, mais quand c'est supérieur, moi, je ne les vois pas.
Ouais, vous les voyez.
Je ne les vois pas.
Le juge d'application
non, mais
des
vous
peines...
savez très bien que à la fin du précédent quinquennat, on a été en pleine schizophrénie législative. Je dis les choses, hein. On a créé les peines planchers, ça a provoqué un boom des condamnations comme jamais dans ce pays. Et moi qui suis au bout de la chaîne pénale, je suis là pour détricoter ce qui est tricoté par les autres. C'est clair, parce que c'est à visée économique, on n'a plus d'argent dans ce pays pour héberger des détenus en prison. Hein? Oui, mais... Nous avons 60 000 détenus actuellement pour 57 000 places en prison. Déjà, il y a une surpopulation carcérale qui est indigne de ce pays par rapport aux standards européens et des pays des droits de l'homme, quand même.
Bah, regardez, mais est-ce que, est-ce... Au Beaumet, ils sont sympas, ils leur ont acheté des pots de peinture et puis ils repeignent les prisons.
Voilà. Non, mais est-ce que le scandale, c'est pas non pas la surpopulation carcérale, est-ce que le scandale, c'est pas la prison? Parce que, quand même, quand on regarde la manière dont la justice éventuellement se débarrasse, entre guillemets, d'un ex-citoyen délinquant, elle l'expédie en prison et tout le monde sait que la prison n'est pas une solution par rapport à une réinsertion. C'est-à-dire, en fait, on ôte un citoyen malveillant de la société pour lui éviter éventuellement de continuer à être malveillant. Mais en fait, on ne prépare pas du tout à sa réinsertion. Donc, quand on sait que 60% des jeunes qui, pour quelques délits, font de la prison, vont y retourner dans les 10 ans, ça fait peur. Donc là, moi, je suis un adepte de Michel Foucault et des analyses qu'il a pu faire, notamment dans Surveiller et punir, dans son livre qui me semble être une analyse, en tout cas, intéressante et intelligente. Est-ce que le scandale, c'est pas la prison? Quand je sais qu'aux États-Unis, c'est le pays du monde, je crois, où il y a le plus d'emprisonnés par habitant au monde, et on sait très bien que ça n'a ni résolu, ni fait craindre le meurtre, ni les infractions, que ça touche des parties de la population très ciblées, etc. Donc est-ce que le scandale, c'est pas plutôt la prison que le fait que on puisse réaménager éventuellement des peines qui seraient la solution à une surpopulation carcérale. Là, je trouve qu'il y a un côté surréaliste quoi, dans la manière de poser la question.
Alors ça d'une part, et puis pour compléter peut-être la question, et je vous donnerai la parole, de cette dérive anglo-saxonne, quand on voit aux États-Unis qu'un tel ou un tel a été condamné à 167 ans de prison, ou des délires, ça n'a absolument aucun sens. Et là, avec... Bon, d'une part, le plaidé coupable, on a commencé, puis on continue, et puis on va finir par en parler après, du délit de mensonge, puisque maintenant, il est question de légiférer pour qu'il soit interdit de mentir. Si en France, on ne peut plus mentir, alors qu'est-ce qu'on va s'emmerder?
Ça dépend. Mentir devant qui? Ça dépend.
Ah non, mais devant le juge, c'est interdit.
Je vais vous dire, il est un fait que la réflexion qui était faite sur l'évolution de la justice à la fin du dernier quinquennat en France allait vers une américanisation. Il était question de supprimer le juge d'instruction, telle enseigne que nos amis Parquetier recevaient de la chancellerie à l'époque des consignes pour ne plus ouvrir d'informations dans les cabinets des juges d'instruction. Tout se faisait en enquête préliminaire avec la police. Mais depuis, nous avons changer notre fusil d'épaule, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'est plus question, déjà, de supprimer le juge d'instruction et on ne va pas vers une américanisation de la justice française.
Sûrement on pas, est... puisque pendant l'enquête préliminaire qui peut durer entre un jour et de temps en temps deux ans, l'avocat n'a pas accès au dossier. Donc, un avocat normalement constitué préfère aller devant un juge d'instruction où il peut prendre connaissance du dossier que de voir les services de police sous le contrôle du procureur de la République instruire tranquillement, puisque c'est le terme, instruire, tranquillement un dossier qui va surgir 6 mois, 8 ou 10 mois après avec un certain nombre de déballages qui n'auront pas été vérifiés dans le cadre d'une procédure qui n'est pas contradictoire. Donc on n'est pas encore dans l'anglo-saxon, parce que dans le système anglo-saxon, dès le premier jour, l'avocat a accès au dossier. Donc critiquer systématiquement la procédure américaine, c'est également ne pas être totalement juste, si je peux utiliser ce terme, c'est-à-dire que dans la procédure anglo-saxonne, il y a des éléments qui sont très intéressants pour le justiciable.
Pour le, si je peux me permettre, pour le journaliste aussi. Parce que le secret de l'instruction, c'est un barrage complet au traitement journalistique d'un dossier. Alors, dans le système que nous avons, il existe, il est plus ou moins respecté, ça c'est une autre question. Dans le système anglo-saxon, il y a tout de suite une audience à laquelle le journaliste assiste, il entend l'accusation, il entend la défense, il peut commencer à savoir. En France, le système du secret de l'instruction est... Le huis clos pour la chambre de l'instruction, sauf exception, ça a été mis en place quand ? Du temps où ça s'appelait la chambre d'accusation, des mises en accusation, et à un moment des affaires dites de Panama, où des hommes politiques étaient mis en cause,
fin du 19e.
Et les journalistes allaient pouvoir assister, comme il y avait évidemment des appels à l'ensemble de la procédure. Vite, on a voté une loi mettant le secret sur les délibérés des chambres d'accusation. C'était anti-médiatique.
Sinon, le début également de l'abus de biens sociaux.
Oui, il y avait, pour moi, le secret de l'instruction, ça explique un certain nombre d'approximations journalistiques. Et aller vers un système anglo-saxon où il y aurait une audience publique.
Bien sûr, c'est pour ça que le système anglo-saxon a plein d'éléments qui seraient très intéressants.
Oui.
De toute façon, le système le plus contradictoire, je pense que le loup va terminer là-dessus, le plus contradictoire qui existe à l'heure actuelle en France, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est la procédure fiscale. La procédure fiscale est une vraie procédure contradictoire du début à la fin. Voilà. Après, on parlera sûrement de l'exception de la procédure du droit pénal fiscal qui fait que je ne comprends même pas que les Français ne descendent pas dans la rue pour supprimer ce qui devrait être l'apanage des magistrats. Sachez que pour être poursuivi pénalement, on ne peut être poursuivi dans le cadre du droit pénal fiscal que sur saisine du ministre du budget ou du ministre des finances, qui saisit la commission des infractions fiscales. La commission d'infractions fiscales étant composée d'un certain nombre d'anciens fonctionnaires, du Conseil d'État et d'ailleurs. Et ce n'est que lorsque la commission des infractions fiscales a dit qu'elle était d'accord avec le ministre de la Justice qu'on saisit le procureur de la République. Et le procureur de la République, en général, il prend le dossier fiscal tel qu'il arrive sur son bureau préparé par les services fiscaux, le remet aux juges qui n'ont plus, en quelque sorte, sauf exception, qu'à entériner ce qui a été fait. Le seul problème qui existe et dont il faudra sûrement en parler, moi j'ai fait une QPC là-dessus, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a pas voulu...
Question prioritaire de constitutionnalité.
Voilà, pardon. Au Conseil constitutionnel, parce que le problème est de savoir... Et je pense que c'est un problème d'égalité des citoyens devant nos juridictions, c'est de savoir sur quels critères objectifs, notre ministre transmet des dossiers à la commission des infractions fiscales, etc., et qui se retrouve dans le tribunal. On parlait tout à l'heure de Madame, citez-moi le nom, j'ai oublié parce que chaque fois, Madame Bettencourt, parce que je pense toujours à L'Oréal. Madame Bettencourt, on sait qu'elle a acheté dans des conditions un peu contestable fiscalement, une île. Est-ce que Mme Bettencourt, depuis les 3 ou 4 ans que cette affaire est sortie, s'est retrouvée devant un tribunal correctionnel ? Mais je ne le crois pas.
Non.
Par contre, un entrepreneur du coin qui va conserver un peu de TVA dans sa trésorerie parce qu'il y a des difficultés économiques. Non, mais peut-être pas construire une piscine. Des vrais entrepreneurs qui ont des difficultés financières et qui ont un contrôle fiscal à ce moment-là et qui ont retenu de la TVA vont se retrouver dans le tribunal correctionnel. Donc, pour répondre à mon cher voisin, je pense qu'effectivement, il y a deux poids, deux mesures. Voilà.
Là.
Ça veut dire que vous vous rendez compte si un jour on détermine que Mme Bettencourt n'était pas forcément saine d'esprit quand elle a fait ses opérations, vous vous rendez compte un petit peu les retombées que ça pourrait avoir sur le projet de Bordeaux.
L'achat de l'île en question, ça a 20 ans, je pense qu'elle était parfaitement...
Et pour ajouter, je précise qu'un juge n'entérine pas un dossier déposé sur son bureau par le procureur de la République, c'est-à-dire qu'il est saisi sur citation et qu'il juge. Il n'entérine pas, il juge.
Oui, mais enfin, je parlais des problèmes de droit pénal fiscal. Oui. Je pense que c'est une marginalité.
Qu'on en revient et puis pratiquement conclure sur le rapport entre justice et politique, proprement dit. Puisque, en l'occurrence, ce qui est dans l'actu, ce qui est reproché à Jérôme Cahuzac, au-delà de tout, c'est d'avoir menti. au-delà d'avoir éventuellement fraudé peut-être le fisc ou des choses comme ça, mais d'avoir menti. Or, justement, aux États-Unis, j'y reviens au niveau anglo-saxon, il est rigoureusement interdit de mentir. Ça a coûté son poste à Nixon, ça a failli coûter son poste à Clinton, et on pourrait citer que quantité d'autres exemples, même, je ne sais plus son nom, mais au champion du monde de golf, qui avait menti sur des histoires de relations sexuelles, enfin peu importe quoi. Bon. Et là, il est question, alors évidemment, Hollande, il est monté au créneau, et du fameux choc de moralisation. Est-ce que ça ne vous a pas choqué? Et là, je me retourne vers Alain Chaudière. Est-ce que tu n'as pas été choqué par le choc de moralisation hollandais?
Ça, c'est absolument certain. J'ai été choqué. De toute façon, tant que c'est l'affect et l'émotivité qui sont à l'origine des interventions, surtout de nos politiques.
Il a fait du sarkozysme, quoi.
Je ne sais pas, peut-être, oui, il a peut-être
dans
fait
les
du sarkozysme.
Dans les motivités, un problème, une loi.
Un problème, une loi, un problème, une déclaration. Je crois qu'effectivement, on est dans une dérive et puis dans un problème où les problèmes sont traités par le bas, peut-être pas par le bas, mais par une certaine de confusion, quoi. Et à la sortie, de toute façon, la solution ne pourra être que contestée. Par contre, le fait de mentir en France, quelqu'un pour se défendre, il faut le rappeler, a le droit de mentir.
Oui, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, Charles Pasqua disait en son temps, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Est-ce que ce n'est pas là les limites de la démocratie? Et madame le juge, quand vous avez un justiciable devant vous, justement au niveau aménagement de la peine, qui vous dit, madame le juge, je vous jure, je vous promets, je ne ferai plus de conneries, je serai sympa, je suis bon père de famille et tout. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, donc... Après, il ne faudra pas vous plaindre si jamais...
Mais monsieur, la justice est humaine, et on mise sur l'humain.
C'est nouveau, ça.
Ah ben non, c'est
la
pas
justice,
nouveau.
La justice est humaine.
Mais absolument.
Ah oui, remarquez, vous n'avez pas dit humaniste. Vous avez dit humaine, juste.
La justice est humaine, et on mise sur l'humain.
Ah bon, d'accord. Vous êtes une brave juge d'application des peines.
Mais
là.
Non, je ne suis pas une brave juge d'application des peines, je suis une juge d'application des peines tout court.
Bon. Je crois que ce qui est important au niveau du mensonge, c'est également ce que peut en tirer la personne qui a été accusée à tort. C'est-à-dire, à la sortie d'une procédure, quelqu'un peut engager la procédure pour un problème de dénonciation calomnieuse ou pour faux témoignage, si tel est le cas. Il faudrait que tout le monde se rende bien compte, pour rebondir sur ce que disait Mme Bouza. Supprimer le juge d'instruction, c'est supprimer également, à moins que ce soit modifié dans le code de procédure pénale, la prestation de serment. C'est-à-dire que devant le juge d'instruction, un témoin qui est entendu jure de dire la vérité. Or, il y a une grande différence au niveau de la procédure devant le juge d'instruction et à l'enquête préliminaire, c'est qu'en enquête préliminaire, aucun témoin ne prête serment. Ce qui veut dire que si un témoin ne dit pas la vérité, vous ne pouvez pas, en tant que personne peut-être victime de son faux témoignage, le poursuivre pour faux témoignage. Ce qui veut dire que lorsque le dossier est renvoyé par le procureur à la suite d'une enquête préliminaire, il est forcément moins complet et donc moins vrai, donc moins juste, que lorsque c'est un juge d'instruction qui renvoie ce même dossier pour les mêmes faits devant le tribunal correctionnel. La seule difficulté, c'est que dans le public et dans le commun des mortels, le témoignage fait devant le juge d'instruction ou le témoignage fait devant les services de police, il a la même valeur, ce qui est encore une inexactitude.
Bon après, c'est pour presque conclure là-dessus. Est-ce qu'au niveau politique, proprement dit, c'est-à-dire les politiques, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement en arriver au mandat impératif? C'est-à-dire, tu as fait campagne, tu as promis que quand tu arriveras au pouvoir, tu ferais ci, ça, et si tu ne le fais pas, bah, t'es viré, hop, terminé, quoi.
Je crains que le fond de la pensée de notre interlocuteur précédent soit « Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement supprimer les politiques et ne garder que les juges ?»
Ah ben c'est, niveau, c'est, ah, c'est pas ce que
je,
la conclusion.
Je pense qu'au niveau du fonctionnement judiciaire, il est certain qu'il faudrait complètement couper les liens entre la politique et la fonction de juge. Là où je diffère avec Mme Bouza, c'est que Je suis partisan, moi, du fait que ce ne soient pas les magistrats qui soient majoritaires au CSM.
Ah oui, parce que oui, là, il y avait une petite
question. Alors là, j'en reviens par rapport aux standards européens. Nous sommes le seul pays d'Europe qui avons actuellement un conseil supérieur de la magistrature où les magistrats sont minoritaires. Et
Monsieur... Et nous sommes un des seuls pays d'Europe aussi où on ne peut pas rechercher la responsabilité personnelle du magistrat lorsqu'il commet une erreur grave.
Alors, vous savez que M. Sarkozy a fait modifier les attributions du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez très bien que tout justiciable peut saisir en responsabilité tout magistrat pour un comportement... détachable, bien sûr.
De... Je ne suis pas contre le
voilà.
CSM, je dis simplement...
Non, mais je ne suis pas moi non plus contre le CSM, mais je vous dis que les magistrats peuvent être recherchés dans leur responsabilité. Pourquoi pas dans leur responsabilité? Vous cherchez dans leur responsabilité par rapport à une erreur grave dans le jugement. Il y a des recours. C'est ça le système démocratique. On rend une décision. Et c'est là l'indépendance de la magistrature aussi. C'est pouvoir juger en toute sérénité et savoir qu'une décision qui est prise par un juge de première instance peut faire l'objet d'un recours en appel et possiblement d'un pourvoi en cassation. Donc, et cela est justement un moyen de préserver cette indépendance et cette sérénité dont chaque juge doit bénéficier dans son jugement.
Oui, moi je parlais du CSM et du système en dehors de cela, du système majoritaire qui est majoritaire au CSM.
Actuellement, ce n'est pas les magistrats.
Non, mais d'accord. Mais
voilà. Nous voulons à l'USM que ce soit les magistrats qui soient majoritaires.
On sort définitivement le politique, le président de la République, etc.
Ah, mais actuellement, ce n'est plus le président de la République qui préside le CSM.
Non. Mais voilà. Où on sort toute présence.
Par contre, dans la future réforme qui est envisagée, il est question que ce soit un membre commun, c'est une personnalité extérieure à la magistrature qui devienne le président des trois formations, plénière, siège et parquet, ce que nous contestons. Parce que cela va...
Je vais postuler. Ah non, ça ne va pas.
Cela va revenir à maintenir les magistrats en position de minorité.
Une minorité.
On tous un chèque, ce qui est...
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.